Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de la parashat Vayakel Pekudé, ou plus particulièrement le début de la parashat Vayakel. Au début de cette parasha, c'est une des deux occurrences que nous avons dans le Chumash et Shemot, dans le livre d'Exode, où il y a une curieuse juxtaposition. D'une part, il y a les principes du Shabbat, et d'autre part, l'ordre quant à la construction, ou les ordres quant à la construction du sanctuaire, aussi appelé Mishkan. Cette juxtaposition n'a jamais manqué d'étonner plusieurs commentateurs depuis la nuit des temps. C'est un sujet qui est déjà commenté dans le Talmud et qui a été repris par nombre de commentateurs médiévaux, dont le plus connu sont probablement Rashi et le Ramban. L'étonnement est que, en principe, ce verset au début de la paracha de Vayakel, qui parle de la sainteté du Shabbat et de l'obligation de l'observer, sont dans un endroit étonnant. Ils sont juste avant l'ordre transmis par Moshe au peuple juif quant à la construction du Mishkan. Il dit « Je vais vous parler, je vais vous dire quelque chose que Dieu m'a raconté. » Il commence par dire « Vous observerez le Shabbat, je résume. » Et ensuite il dit « Vous construirez le Mishkan, je résume bien évidemment aussi. » Et l'autre fois où cette juxtaposition apparaît, dans le sens inverse, c'est quelques parachutes plus tôt, dans la paracha de Kitissa, quand précisément Dieu transmet ces deux ordres-là à Moshe, en l'occurrence dans l'ordre inverse. Il lui dit, vous construirez, tu diras aux enfants d'Israël qu'ils construisent le Mishkan, et ensuite tu leur diras aussi de respecter le Shabbat, toutefois. Je reviendrai sur ce mot, toutefois. La conclusion à laquelle arrivent nos sages, quant à cette juxtaposition, c'est qu'un sujet, il a quelque chose à nous enseigner quant à l'autre sujet. Plus particulièrement, il y a deux points principaux. Le premier, plus général, c'est que le Shabbat n'est pas censé être repoussé au bénéfice de la construction du Mishkan. Combien même, ça c'est l'expression de Rashi sur la parashat qui dit ça, combien même nous soyons pressés de construire le Mishkan, nous devons cesser toute œuvre le jour du Shabbat. C'est pourquoi là-bas, dans la parashat Kitissa, il est employé ce terme « ach », toutefois, qui précède l'ordre concernant le Shabbat. Ici, dans notre parasha, il n'y a pas de terme « toutefois », mais le Shabbat il apparaît d'abord, avant on parle du Shabbat, et ensuite, on parle de la construction du Mishkan. Le message est le même. Le Shabbat, il vient avant le Mishkan. Combien même vous avez l'obligation de construire le Mishkan, cette obligation-là, elle ne s'applique pas le Shabbat. Vous ne pouvez pas continuer vos œuvres du Mishkan le Shabbat. Donc ça, c'est le premier point. Le Shabbat, il n'est pas repoussé au bénéfice de la construction du Mishkan. Maintenant, le second point, plus particulier, c'est que les interdits même de Shabbat, ce qu'on appelle le 39 Melachot, sont déduits justement des différents travaux qui étaient requis pour la construction du Mishkan. Par exemple, il était nécessaire dans le Mishkan d'allumer le feu. Eh bien, le Shabbat, c'est interdit d'allumer le feu. Il était nécessaire dans le Mishkan de transporter des objets dans une voie publique. Eh bien, le Shabbat, il est interdit de transporter des objets dans la voie publique. Il était nécessaire pour la construction du Mishkan de découper des morceaux de cuir. Eh bien, il est interdit de découper le Shabbat. La liste, elle est encore évidemment longue. Je ne vous ferai pas les 39 travaux. En revanche, le message, il est clair. Ce qui est interdit au Shabbat, le Shabbat, c'est précisément ce qui était nécessaire pour la construction du Mishkan. Le lien entre les deux choses, il est assez clair. Maintenant, qu'est-ce que cela nous apprend? Premièrement, il y a quelque chose de très étonnant dans toute cette affaire. Ce qui est très étonnant, c'est que une chose comme l'autre sont en principe des ordres divins. Nous devons observer le Shabbat, nous devons également construire le Mishkan. Mais comment on décide ce qui prend le dessus sur quoi? Ça, c'est une question centrale. Peut-être beaucoup plus centrale que de savoir qu'est-ce qui est requis qu'on fasse dans l'absolu, en général. Ce que la Torah vient nous enseigner, c'est ce qui prend le dessus sur quoi? En l'occurrence, dans ce cas, le message est clair, comme je viens de vous expliquer. C'est le Shabbat qui prend le dessus sur la construction du Mishkan, mais vous pouvez bien imaginer qu'il y a toute une série de cas qui se posent, en fait, dans le quotidien de la vie de tout juif. Et qui, là, il consistera il s'agira de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que prend le dessus sur quoi. Pour donner deux exemples très simples, lorsque nous avons le huitième jour d'un petit garçon qui tombe le Shabbat, est-ce que nous faisons le Brit Mila ou nous ne le faisons pas? Puisque pour faire le Brit Mila, il est nécessaire de transgresser un certain nombre d'interdictions du Shabbat. Et bien dans ce cas, ce qui prendra le dessus, c'est le Mila. C'est le fait de faire la Brit Mila. Pourquoi? Je vous épargnerai toute la déduction ici, parce que pour chaque cas, il y a une façon très précise de déduire. Mais le message peut-être général que je voudrais partager avec vous, c'est que plus que nous enseigner ce que nous devons faire, la Torah, elle est là pour nous enseigner comment est-ce qu'on décide parmi plusieurs choses qui sont dans l'absolu bonnes, qui sont dans l'absolu la volonté divine, nous décidons, nous tranchons, nous agissons. Comment est-ce que d'un point de vue très concret, ces principes, ces commandements, ces ordres sont transformés très concrètement en une hiérarchie, ce qui prend le dessous sur quoi et ce qui doit être fait et dans chaque situation. Je terminerai avec un autre exemple qui me semble très parlant quant à ce que la Torah vise à contrer, justement, avec cette démarche de nous enseigner non seulement le principe, mais aussi comment ces principes deviennent quelque chose de pratique. Ils prennent une forme pratique, ils peuvent être appliqués. Vous savez probablement que cette année, Rosh Hashanah, et c'est le cas aussi pour Sukkot, tombera le premier jour en Shabbat. Et que dans ce cas, même si nous avons un commandement de la Torah de sonner le shofar le premier jour de Rosh Hashanah ou de prendre les quatre espèces, le lulav, le premier jour de Sukkot, puisque cette année cela tombe en Shabbat, nous abstenons de se faire. Et pourquoi? Il n'est pas interdit de sonner le shofar, il n'est pas interdit de prendre les quatre espèces du lulav, même si c'est Shabbat en principe. Et la raison qui est donnée, c'est parce que peut-être quelqu'un aura l'idée que puisque le shofar c'est juste seulement une fois par an, puisque le lulav c'est seulement une fois par an, nous allons sortir dans la rue avec le shofar pour aller sonner pour d'autres personnes, ou alors avec le lulav pour permettre à d'autres personnes de faire la mitzvah. Ah, c'est Shabbat. Bon, Shabbat, il y a toutes les semaines. Ça, c'est une mitzvah spéciale une fois par an. Et pour éviter que les gens fassent ce raisonnement, les sages, ils ont interdit tout simplement de sonner le shofar ce jour. Donc, ils ont annulé le commandement de la Torah qui consiste à sonner le shofar ou à prendre les quatre espèces du lulav au nom de ce soupçon, peut-être lointain, que quelqu'un vienne à faire un tel raisonnement. Maintenant, essayons de nous mettre un instant dans la tête de la personne qui fait ces raisonnements. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense, le lulav, le shofar, c'est un commandement divin. Et en plus, c'est un commandement très spécial, puisqu'il n'a lieu qu'une seule fois par an. Il vaut mieux le faire et laisser de côté le Shabbat. Le raisonnement, au fond, il n'est pas si tordu que ça. C'est un raisonnement qui pense à ce que Dieu attend de nous, ce qui est important, ces principes qui sont énoncés dans la Torah, ces lois qui nous sont données. Et on essaie de faire un calcul un peu approximatif et dire qu'est-ce qui prend le dessous sur quoi. Et c'est précisément pour éviter cela que la Torah, comme je vous ai expliqué, ne consiste pas seulement à nous dire quoi faire, mais aussi comment mettre les différentes choses en conflit et comment tirer à partir d'un raisonnement qui n'est pas simplement intuitif, qui n'est pas simplement spontané, qui n'est pas simplement du bon sens, ce qui est la chose correcte à faire. Le correct dans la Torah, c'est bien plus qu'une question de son contenu, c'est aussi la façon très fine dont les différents contenus ont de s'articuler les uns avec les autres. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il est si important, si central dans la pratique juive, d'étudier les textes de la Torah. Il y a beaucoup de religions où il y a beaucoup de lois, des principes, et pourtant, il n'y a pas une emphase qui est mise sur le fait de les étudier. Eh bien, c'est peut-être pourquoi, justement, ce dont il s'agit dans la Torah, c'est non pas de comprendre son contenu, mais comment les choses s'articulent et comment on peut parvenir à trancher dans chaque cas concret, que ce soit à toutes les échelles, bien un grand décisionnaire rabbinique qui va donner un psak, une décision halakhique, mais aussi chaque juif dans sa vie quotidienne, savoir ce que veut dire vivre selon la Torah, n'est pas simplement de connaître quels sont ses contenus, mais avoir la finesse et le bon sens et orienter d'après une pensée de Torah de comment une chose prend le dessus sur une autre et trancher. Une des expressions peut-être les plus tranchées, c'est le cas de le dire, sur ce principe et cette problématique de, quelque part, bien vouloir appliquer les principes de la Torah tous, mais d'une façon qui n'est pas droite, sans respecter les bonnes priorités, nous est donné par la plume de Maïmonide, dans le deuxième chapitre de ses lois de Shabbat, dans le Mishneh Torah. Et là-bas, il dit quelque chose de très intéressant sur un des conflits entre principes de la Torah peut-être le plus réputé, qui est le conflit entre Shabbat d'une part, on n'arrête pas de parler de Shabbat, par là, donc Shabbat d'une part, et Pikuach Nefesh d'autre part, à savoir l'obligation de sauver une vie humaine. Ce que dit Maïmonide, je vous résume, c'est que, bien évidemment, le principe de Pikuach Nefesh, il prend le dessus sur le Shabbat et ainsi sur tout le reste, à peu près, des mitzvot de la Torah. Et même, non seulement un vrai Pikuach Nefesh, un Pikuach Nefesh avéré, une vie qui est avérément en danger, mais même un Sfeik Pikuach Nefesh, même si on a le moindre doute qu'une personne est en danger de vie, ceci prend le dessus sur le Shabbat et on doit transgresser tous les interdits qui seraient nécessaires du Shabbat pour pouvoir essayer de sauver sa vie ou même la prolonger d'un petit peu. Et un peu après, Maïmonide ajoute le mot suivant, je vais vous le dire. Il est interdit d'hésiter en ce qui concerne la transgression du Shabbat pour un malade dangereux. Parce qu'il est marqué dans la Torah, je vous lis en hébreu, « Asher yaseh otam adam v'chai bahem » Ce sont les principes de la Torah que l'homme devra faire, devra accomplir et vivre par eux. Et de là on interprète « Velo sheyamut bahem » et non pas « mourir par eux ». De là, nous avons appris, continue Maïmonide, que les règles de la Torah ne sont pas nekama baolam, ce que veut dire littéralement une vengeance sur le monde, et la rachamim vechesed veshalom baolam, mais plutôt de la pitié et de la bonté et de la paix dans le monde. Et il y a des hérétiques qui disent que ceci est une profanation du Shabbat et qu'il est interdit, dans le cas de sauver la vie d'un malade. Et sur eux, dit Maïmonide, la Bible dit la phrase suivante, « Je leur ai donné des mauvaises lois et des préceptes qui ne les feront pas vivre. » C'est-à-dire, l'expression ici de Maïmonide, elle est extrêmement forte et tranchée, dans le sens de dire, que hésiter par rapport à une priorité claire que la Torah a établie, ça, c'est de l'hérésie. L'hérésie, elle ne consiste pas à prêcher des principes qui n'existent pas dans la Torah ou qui sont contraires à ceux de la Torah, mais justement à utiliser les principes de la Torah d'une manière qui n'est pas conforme à leur hiérarchisation et à leur articulation qui est propre à la Torah. En l'occurrence, en prenant le principe de Shabbat et en le mettant au-dessus de celui de Pikuach Nefesh. Ça, c'est une hérésie. Ce à quoi nous invite justement le Rambam, c'est de voir les principes de la Torah non pas comme étant une vengeance sur le monde. D'ailleurs, pourquoi vengeance ? Peut-être parce que si on applique les principes sans réfléchir à la façon de les appliquer, la seule conséquence à laquelle on peut parvenir, c'est que l'application du principe de la Torah sur le monde soit, à proprement parler, une vengeance contre le monde. Si le monde il n'est pas droit, alors la Torah, en étant droite contre lui, se venge de lui. Alors, ce n'est pas du tout ça le chemin. Le chemin, c'est de voir que la Torah a une façon de s'investir dans le monde, une façon d'intervenir dans le monde, y compris dans des situations qui ne sont pas toujours droites et dans lesquelles une application aveugle d'un principe sans tenir compte du fait qu'il doit s'inscrire d'une certaine façon précise dans le monde et parvient à une conséquence qui est absolument catastrophique, qui est l'hérésie et, pour ne pas dire, l'horreur de laisser une personne mourir alors qu'elle doit être sauvée. Bon, c'est juste un exemple, peut-être un des plus parlants que nous avons, de ces principes. Et je vais vous laisser sur ça, à réfléchir. C'est une réflexion qui va bien au-delà, tout simplement, de l'application des règles de la Torah dans le quotidien ou dans les grandes décisions, mais même pour tout un chacun, comment trancher entre des choses qui visiblement sont importantes dans notre vie. Et que si on ne parvient pas à voir clair qu'il y a une façon de les articuler, et pas seulement « ah ça c'est important, et ça c'est aussi important, et ça aussi c'est important », on se perd et on parvient à justement vivre comme si on était en train de se venger de sa propre vie. Good Shabbos.